Nzamba.
Nzambi la samirana.
Le journal avec Jean-Georges Kibogora.
Merci d'être avec nous sur la radio Nzamba, Agathe Kakawe, c'est l'heure du journal en français. Donc voici d'abord l'essentiel. Environ 2 millions de Burundais se sont déjà fait inscrire pour les élections de 2025. Entre-temps, certains administratifs obligent les gens à aller vite se faire inscrire. C'est notamment l'administrateur de la commune de Manda dans la province de Bubanza qui interdit l'octroi des services de sa commune à toute personne qui ne s'est pas fait inscrire. La coalition CFO Arusha dénonce une intimidation et une violation de la loi dans cette mesure. Et puis le gouvernement burundais reconnaît un manque de techniciens pour l'exécution de son budget programme. L'OLCOM, qui n'allait pas ce prix, recommande le remplacement de ses soi-disant techniciens par des professionnels en la matière. Enfin, la journée de la diaspora burundaise en préparation pour le 26 courant en Belgique a l'objectif de diviser les Burundais de l'étranger. C'est le constat amer de plusieurs Burundais de l'étranger affiliés aux mouvements et partis politiques. On en parle dans ce journal. Restez avec nous.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Plus d'un million de 700 000 Burundais se sont déjà fait inscrire pour les élections de 2025, et cela en trois jours après le lancement de cette opération le 22 octobre. Cette information a été fournie par le président de la Commission électorale nationale indépendante. C'était lors d'une conférence de presse de ce vendredi. Interrogé sur le caractère volontaire ou obligatoire de l'inscription, Prosper Nahuami a seulement expliqué que l'administration dispose des stratégies pour encourager la population à s'inscrire à ces élections.
Les inscrits jusque hier au niveau total, c'est 1 742 111. Province Gitega, 482 880. Province Boutanyerera, 423 961. Province Bujumbura, 354 581. Province Bumuza, 274 913. Et province Burunga, 205 776. Voilà l'état des lieux. Et si on fait le total global, c'est une estimation d'autour de 29%. 29%, c'est proche de 30% les trois premiers jours. Il nous reste encore, alors nous avons 10 jours. Si ça continue au même rythme, c'est une très bonne progression. Le droit de vote, c'est un droit garanti à tous les citoyens, mais le citoyen burundais est libre de participer ou de ne pas participer aux élections. Ça, c'est un droit. Mais après un droit, il y a un devoir. Alors, concernant la question que tu viens de me poser, tout État, tout gouvernement a le droit de sensibiliser la population à faire une activité dans le cadre de l'éducation citoyenne. Aussi, le gouvernement a le droit de sensibiliser la population à prendre part aux élections en se faisant enregistrer. Donc, toutes les mesures que l'État peut prendre dans le sens d'éduquer la population, dans le sens d'aider la population à jouir pleinement et totalement de ses droits, c'est tout à fait normal. Et pour nous, la CENI, c'est bon. Nous allons avoir plus de gens qui participent aux élections et ça va crédibiliser davantage le résultat des élections. Il y a les obligations de citoyens, il y a aussi les obligations de l'État. Le citoyen a le droit de ne pas voter, il en a son droit. Mais l'État a l'obligation d'éduquer la population à participer aux élections.
Entre-temps, l'administrateur de la commune de Manda dans la province de Bubanza, Nadine Nibitanga, a sorti un communiqué ce jeudi 24 octobre 2024, un communiqué exigeant toute personne qui désire avoir des services dans sa commune de présenter d'abord la preuve qu'elle s'est déjà fait inscrire pour les élections de 2025. La coalition CFO Arusha dénonce une forme d'intimidation et une mesure prise en violation de la loi. L'organisation dit que l'enrôlement aux élections doit être libre et volontaire. On écoute Jean-Bosco Guiguemera, il est vice-président de la coalition CFO Arusha.
Conditionner le service communal à l'inscription au rôle d'électeur, on peut se poser la question de savoir en vertu de quelles dispositions légales ou réglementaires cela est fait. Au lieu d'exprimer l'inquiétude et penser que la solution c'est l'intimidation, l'administration et toute autre autorité politique devrait plutôt réfléchir par deux fois et tirer les leçons qui s'imposent. Le peuple n'a plus confiance aux élections qui ne sont ni démocratiques, ni transparentes, encore moins crédibles. Depuis 2005, il y a eu 4 élections. Bientôt, ça sera la 5e fois que le peuple est appelé aux urnes. Les autoproclamés vainqueurs des élections sont-ils réellement au service du peuple, si ce n'est que se déclarer élus du peuple, lequel peuple est meurtri et appauvri, un peuple qui subit un kidnapping du jour au lendemain, un peuple forcé à l'exil, un peuple qui se voit abusivement incarcéré, un peuple torturé tant physiquement que moralement, un peuple spolié, un peuple qui assiste sans cesse à l'assassinat de ses proches sans même avoir le droit de les enterrer dignement ou d'organiser le deuil. Les mots ici sont tellement nombreux que l'on ne peut pas les énumérer tous. Quiconque pense comme cet administrateur Don Panda devrait comprendre que le peuple n'est pas dupe. Il voit tout et il comprend tout. Si la lire des inscriptions est inquiétante, c'est un message donné aux autorités administratives et aux autorités politiques. C'est donc inutile de penser que l'intimidation est la solution. Cette intimidation a ses limites. Le service communal rendu à la population, c'est un droit et non une faveur. Par ailleurs, il génère des recettes dont la commune a tant besoin pour payer le personnel et d'autres charges.
Dans le domaine des droits de l'homme, la prolongation d'une année supplémentaire des sanctions contre le Burundi prises par l'Union européenne est un message fort qui montre que la communauté internationale suit de près la situation des droits de l'homme au Burundi. C'est le constat de l'Association chrétienne pour l'abolition de la torture à Kat Burundi. Maître Armel Niongere, son président, apprécie cette prolongation des sanctions qui pour lui pourra amener les autorités burundaises à se ressaisir et adopter des mesures concrètes pour le respect des droits humains. Pour lui, le gouvernement burundais devrait saisir cette opportunité pour rétablir la confiance avec les partenaires internationaux. On l'écoute.
La prolongation des sanctions de l'Union européenne contre le Burundi est à la fois un signal fort et une décision nécessaire. Elle rappelle que la communauté internationale reste attentive à la situation des droits de l'homme dans notre pays. Depuis plusieurs années, nous dénonçons des violations persistantes comme les arrestations arbitraires, tortures, répression des opposants et misèlement de la société civile. Ces sanctions sont le reflet d'une absence de réformes concrètes et d'un recul inquiétant en matière de respect des libertés fondamentales. Nous espérons que cette nouvelle prolongation sera perçue par les autorités burundaises comme une ultime opportunité de se ressaisir. Il est encore temps de montrer une réelle volonté de changement à travers des actions tangibles comme la libération des prisonniers d'opinion, l'ouverture de l'espace civique et la lutte contre l'impunité. Un engagement dans cette voie permettrait non seulement d'améliorer le climat intérieur, mais aussi de rétablir la confiance avec les partenaires internationaux, y compris l'Union européenne.
Inzamba. Dans la suite de ce journal, le gouvernement burundais souhaite, à travers l'activité Burundi Day, prévue ce samedi 26 octobre en Belgique, divise davantage les Burundais ainsi que la diaspora burundaise. C'est du moins ce que dénoncent les partis et mouvements politiques ayant des sections à l'étranger comme le CNL d'Agathon Rwasa, l'UPD Zigamibanga, le Front Debout, la coalition Sefo Arusha, le Sénared et le MAP Burundi Buhire. Selon Aimé Maguera, porte-parole de cet ensemble, le président Evariste Ndayishimiye devrait plutôt s'engager dans la recherche d'un compromis politique par le biais d'un dialogue franc avec toutes les parties prenantes basé sur l'accord d'Arusha. Suivez.
Nous nous sommes coalisés pour dénoncer cette manœuvre du pouvoir qui tend toujours à diviser la population, à diviser les Burundais partout où ils sont. Ils l'ont fait au Burundi, ils continuent de le faire, mais cette fois-ci, donc ils viennent même à l'étranger pour diviser une diaspora qui était déjà organisée, justement pour la diviser en elle. Nous dénonçons cette manière, cette manœuvre du pouvoir qui, au lieu de rassembler la population, au lieu de rassembler les Burundais, parce qu'ils sont à mauvaise situation financière et à mauvaise situation politique et sociale, ils essaient de divertir la population et semer la zizanie et diviser la population. Le CNDD, comme il n'a pas de programme politique, il veut imposer ses supplétifs, les gens qu'il a recrutés depuis 2020, pour venir les imposer à organiser la diaspora. Donc nous dénonçons avec énergie cette manière, ce système que le CNDD veut toujours installer pour effectivement diviser et semer la désolation au sein de la population burundaise. La diaspora burundaise existe déjà et c'est elle qui doit toujours s'organiser et choisir ses dirigeants. Ce n'est pas aujourd'hui aller recruter les gens qu'ils ont rapatriés au Burundi, qu'ils ont fait des accords avec le CNDD, qu'on peut installer à la tête des organisations, à la tête de la diaspora burundaise. La diaspora burundaise peut s'organiser elle-même. Ce n'est pas le régime, ce n'est pas le ministère de l'Intérieur qui doit définir les critères des gens qui doivent diriger cette diaspora. Nous lançons un appel vibrant à la diaspora burundaise. Il faut s'y opposer, ne pas accepter d'être manipulé par un régime qui est en perte de vitesse. Vous devez vous-même choisir les dirigeants, pas des dirigeants qui sont recrutés par le pouvoir pour venir vous organiser.
Et dans le domaine de l'économie, le manque de connaissances de techniciens dans certains ministères dans la planification du budget programme constitue un handicap dans la réalisation des objectifs fixés par ce programme. C'est ce qu'a dit le premier ministre burundais Gervais Ndirakobucha. C'était ce jeudi quand il présentait les réalisations de son gouvernement durant les 6 derniers mois. Écoutez.
La fonction que nous occupons nous était nouvelle. Les techniciens de différents ministères n'étaient pas préparés et n'avaient pas de connaissances suffisantes. Tout cela a constitué un handicap dans la mise en application du budget programme parce que ça demande des gens rodés dans la planification. En ce qui concerne la planification, nos techniciens éprouvent d'énormes difficultés. Cela a constitué un autre problème, de sorte que, même si nous nous y sommes engagés, nous l'avons fait en tâtonnant, et même actuellement, celui qui dira le contraire sera en train de mentir. Et de surcroît, les gens n'étaient pas préparés.
Le LICOM trouve que c'est incompréhensible que le gouvernement burundais déclare son incapacité de gérer et organiser correctement le budget programme. Pour cette organisation, le gouvernement ne devrait pas continuer à collecter des taxes et des impôts s'il est incapable de les gérer. Écoutez, Jean Duimana, il est porte-parole de le LICOM.
Au niveau de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, LICOM à sigle, nous avons été surpris d'avoir entendu les réponses du Premier ministre, chef du gouvernement du Burundi, quand il était devant les représentants du peuple à l'hémicycle de Kigobe. Il était en train de répondre sur la question de l'utilisation du système budget-programme dans la gestion du budget, dans la gestion des programmes de l'État du Burundi. Il a bel et bien répondu aux honorables parlementaires que le budget programme est venu alors que les membres du gouvernement, c'est-à-dire que les différents ministères ne sont pas préparés, qu'ils tâtonnent encore au niveau de l'applicabilité de ce système budget programme. Il dit cela au moment où le budget programme est un outil exact pour la gestion des avoirs de l'État, pour la gestion des programmes de l'État. Le budget programme exige 8 livres dont il faut une planification du débit à la fin. Donc le budget programme exige une planification pour pouvoir passer à dépenser l'argent de l'État. Donc, c'est un moyen efficace de gestion transparente du budget général de l'État. Parce que c'est un moyen qui concorde avec les dépenses et les programmes. Alors, le Premier ministre a affirmé devant le peuple, c'est-à-dire devant le représentant du peuple,
qu'ils sont incapables d'utiliser ce moyen efficace de gestion des programmes de l'État. Des taxes et impôts émanent dans le sueur du peuple. C'est pour cette raison que le gouvernement du Burundi affirme qu'il tâtonne encore dans l'utilisation du budget général de l'État.
Pour Jean-Louis Mana, le gouvernement devrait associer les spécialistes en la matière, comme les professeurs d'université. On l'écoute encore une fois.
Pourquoi ils disent que au Burundi, le budget programme est nouveau pour tout le monde? C'est nouveau pour le système de gouvernance actuel de Gitega. Mais ce n'est pas nouveau pour l'élite intellectuelle du Burundi, parce qu'au Burundi, il y a vraiment des connaisseurs de ce système budget programme, notamment à l'université, il y a des professeurs qui enseignent tous les jours à ce qui est du budget programme. Là, il faut aller demander aux profs de l'université en faculté de sciences économiques, ce qu'on appelle le monsieur Gilbert. Il est capable, c'est lui, qui nous aide au niveau de l'ICOM pour parler aux invités ce qui est du budget programme. Malheureusement, nous invitons chaque fois au niveau de la société civile les représentants du gouvernement, c'est-à-dire les représentants des différents ministères. Malheureusement, ils ne viennent pas. Seuls les membres de l'organisation viennent pour suivre ce qui est du budget programme.
C'était Jean-Louis Mana, porte-parole de l'OLICOM, l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques. Et c'est par là que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain samedi dans une nouvelle édition française. Et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.